C'est l'heure du journal. Aurélie Kiefer, bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le bras de fer entre Madrid et Barcelone se poursuit. La justice espagnole suspend la séance du Parlement catalan prévue lundi prochain. Précision de notre correspondant Mathieu de Taillac. Total veut rivaliser avec EDF et Engie. Le géant pétrolier dévoile une offre de gaz et d'électricité pour les particuliers. Emma Sarango nous en dira plus. Kazuo Ishiguro, récompensé par le prix Nobel de littérature. Le roman le plus connu de cet écrivain britannique d'origine japonaise est « Les vestiges du jour », porté à l'écran par James Ivory en 1993. Et puis en fin de journal, coup de projecteur sur le festival de musique ancienne de Lanvelec dans les Côtes d'Armor. Un festival de renommée internationale qui s'appuie sur des bénévoles militants. Les dirigeants séparatistes catalans s'apprêtaient à proclamer l'indépendance lundi prochain lors de la session du Parlement régional. Mais cette session parlementaire vient d'être suspendue par la Cour constitutionnelle espagnole. La justice a été saisie par le Parti socialiste de Catalogne opposé à la sécession. On retrouve Mathieu de Taillac à Madrid.
C'était la séance de tous les soupçons. La majorité indépendantiste du Parlement régional catalan refusait de dévoiler ses projets pour la journée de lundi prochain. Mais la loi sur le référendum qu'ils avaient voté début septembre prévoit que 48 heures après la publication des résultats du scrutin, une déclaration d'indépendance doit être votée par la Chambre, la Cour constitutionnelle. Saisie par le Parti socialiste catalan, a préféré couper court. La séance est suspendue et les juges notifieront personnellement la présidente du Parlement catalan ainsi qu'aux membres du bureau de leur devoir d'empêcher la séance et des conséquences pénales que pourrait entraîner une éventuelle désobéissance. Car ce ne serait pas la première fois que les indépendantistes ignorent une décision de la Cour constitutionnelle. Le référendum lui-même avait été suspendu par les juges, ce qui n'a pas empêché les autorités catalanes de l'organiser. La question est à présent de savoir quelle stratégie les indépendantistes vont adopter, se rendre tout de même au Parlement, quitte à se voir bloquer l'accès par la police ou affronter des procès au pénal, chercher un autre cadre pour proclamer l'indépendance tout de même, reculer d'un pas et réitérer leur demande d'une médiation. Le défi indépendantiste entre une nouvelle fois dans l'inconnu, alors que les ponts semblent totalement coupés entre Madrid et Barcelone.
Le Parlement européen donne son feu vert à la création d'un parquet européen. Il aura pour mission de combattre les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, à commencer par les fraudes à la TVA transfrontalière. Plusieurs États membres s'étaient opposés à ce projet. Après 4 ans de bataille, il se concrétise dans le cadre d'une coopération renforcée entre 20 pays, dont la France. Ce parquet européen devrait pouvoir ouvrir ses premières enquêtes en 2020. Comment est-ce que cela va se passer concrètement? Anya Vogel l'a demandé à l'ancienne ministre de la Justice, Rachida Dati, également eurodéputée du Parti populaire européen.
Par exemple, si vous avez une fraude découverte dans un pays comme la France et qu'on se rend compte que c'est au-delà des frontières françaises, le tribunal français, le procureur français va saisir le procureur européen qui sera installé au Luxembourg, qui lui-même saisira des procureurs européens délégués dans les autres États membres et ils procéderont à tous les actes de poursuite, d'investigation, d'enquête possibles et comme ça on gagnera du temps et ça sera plus efficace. Alors aujourd'hui, la compétence va être limitée à la fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne, mais c'est pas négligeable. Déjà, puisque la fraude à la TVA devient une fraude récurrente et conséquente, puisque nous en sommes, dans le dernier chiffre donné par Moscovici, à 50 milliards d'euros. Et moi, je ne désespère pas qu'on puisse aller ensuite sur le blanchiment et le financement du terrorisme, et sur le terrorisme lui-même, et donc la criminalité organisée. Mais déjà, de créer cet organe, de créer les procédures, de pouvoir avoir des magistrats compétents et spécialisés, c'est une avancée majeure. On ne se rend pas compte. Depuis le mandat d'arrêt européen, il n'y a pas eu une telle avancée au niveau judiciaire.
Même si c'est limité pour l'instant à 20 pays, vous dites oui, c'est même d'autant plus efficace.
Alors ça va être d'autant plus efficace que les 20 pays qui sont aujourd'hui engagés dans la création de ce parquet européen sont des volontaires. Donc ils ne risquent pas d'avoir des empêchements ou des entraves au bon fonctionnement de ce parquet européen.
Rachida Dati au micro d'Anya Vogel. La France votera contre le prolongement de l'autorisation du glyphosate dans l'Union européenne. Le ministre de l'Agriculture l'a confirmé ce matin. Pour autant, précise Stéphane Travert, il n'est pas question d'interdire immédiatement l'utilisation de l'herbicide en France. Il faut établir un calendrier de sortie de ce produit permettant la transition nécessaire, notamment pour les professions agricoles. Une réunion du comité d'experts sur le sujet s'est ouverte aujourd'hui à Bruxelles. Les États membres doivent s'accorder sur le renouvellement ou non de la licence de cet herbicide, présent notamment dans le Roundup de Monsanto. Deux citoyens américains qui attaquent Monsanto en justice sont venus à Bruxelles pour l'occasion. Ils veulent avertir les autorités européennes des risques liés au glyphosate. Le reportage de Lax Milota.
Accompagné de ses avocats, Terry McCall, 65 ans, témoigne malgré une émotion toujours vive. Elle a perdu son mari fin 2015. Selon elle, il est décédé d'un cancer parce qu'il a utilisé l'herbicide Roundup pendant 30 ans.
Je pense que mon mari serait toujours avec moi aujourd'hui s'il ne s'était pas servi du Roundup. C'était un homme en bonne santé, il ne fumait pas, ne buvait pas, il n'y avait aucune raison qu'il meure si jeune.
Elle est venue de Californie pour alerter les Européens.
Je voudrais appeler l'Union européenne à réexaminer attentivement ces informations sur le Roundup et utiliser sa conscience pour prendre la bonne décision.
À ses côtés, John Barton, 68 ans, chapeau de cow-boy sur la tête, bien décidé à se battre contre son cancer et contre Monsanto. C'est un ancien agriculteur, sa famille a cultivé le coton pendant un demi-siècle.
J'ai vu vos paquets de cigarettes ici, avec leurs avertissements sur les risques pour la santé. Les gens ont le choix de fumer ou non, en connaissance de cause. Moi, je n'ai jamais eu ce choix. Monsanto nous a dit, ce produit, le Roundup, ne comporte aucun risque.
Les deux plaignants ont remis aujourd'hui une lettre au Parlement européen et à la Commission, en espérant être entendu.
Lakshmi Lota à Bruxelles. Le Niger a été frappé hier par une attaque terroriste qui a fait un nombre important de victimes. Déclaration du président nigérien. Mamadou Issoufou confirme ainsi l'embuscade dans laquelle sont tombés des soldats américains et nigériens dans le sud-ouest du pays. En France, le porte-parole de l'état-major des armées indique de son côté qu'une opération impliquant des soldats français de la force Barkhane est en cours au Niger, mais aucun soldat français n'a été tué hier. Le successeur de Bob Dylan s'appelle Kazuo Ishiguro. Ce Britannique d'origine japonaise vient de se voir attribuer le prix Nobel de littérature. Lui aussi est musicien et compositeur, mais c'est avant tout un auteur de romans et de nouvelles. Son œuvre la plus connue est « Les vestiges du jour » publié en 1989, un livre adapté ensuite au cinéma par James Ivory. Anne Rabinovitch est la traductrice des trois derniers livres de Kazuo Ishiguro en France. Elle décrit un artiste complexe qui prend le temps d'écrire ses romans et aime aborder des thèmes difficiles.
Il touche à des thèmes profonds, comme dans Le géant fruit, qui se passe entre les Anglos et les Saxons il y a des siècles, mais qui pourrait très bien se passer aujourd'hui dans le monde actuel, avec toutes les guerres et tribus symboliques qui se battent les unes contre les autres. Et il y a aussi beaucoup d'humour, Ishiguro. Par exemple, dans ses nouvelles nocturnes, il y a des scènes absolument hilarantes où on rit aux éclats chaque fois qu'on relit la nouvelle. Donc il a beaucoup de cordes à son arc. Mais une fois que vous étudiez le fond et que vous plongez dans les strates et les strates de son écriture, c'est très bouleversant. Mais je ne parlerai pas de l'émotion. Ce n'est pas sur le plan simple de l'émotion. C'est un bouleversement profond qui remet en cause des questions fondamentales, quoi. Si vous lisez, ça coule. C'est une écriture qui coule. Vous ne pouvez pas le lire en surface. Il faut aussi savoir ce qu'il y a au fond.
Anne Rabinovitch, traductrice en France de Kazuo Ishiguro, elle répondait à François-Pierre Noël. Total lance son offre de fourniture de gaz et d'électricité aux particuliers. La compagnie pétrolière vise la place de numéro 3 du marché de l'énergie derrière EDF et Engie. Le groupe précise que son offre est 10% moins chère que les tarifs réglementés. Total espère ainsi attirer au moins 3 millions de clients en France en moins de 5 ans. Bonsoir Emma Sarango.
Bonsoir.
Ça fait 10 ans que le marché s'est libéralisé, mais jusqu'ici, peu d'opérateurs alternatifs sont parvenus à grignoter des parts aux anciens détenteurs du monopole.
Oui, imaginez, 10 ans après l'ouverture à la concurrence, GDF Suez, devenue Engie, fournit encore en gaz 75% des ménages français. Et c'est encore plus flagrant dans le secteur de l'électricité. 84% des parts de marché reviennent à EDF. Et signe de l'ultra-domination de ces deux opérateurs historiques, devinez qui est le principal concurrent d'EDF dans le domaine de l'électricité. Eh bien, c'est Engie qui fournit du courant à 10% des ménages et vice-versa. EDF est aussi numéro 2 dans le gaz avec la même part de marché. Et pourtant, des concurrents, il y en a une trentaine pour le gaz comme pour l'électricité, avec des tarifs allant jusqu'à 10% moins chers. Mais les résultats peinent à suivre, le mieux placé étant Direct Energy avec 4% seulement des parts du marché de l'électricité, après tout de même 14 ans d'existence en France. Alors comment expliquer cette fidélité souhaitée ou non des Français aux opérateurs valeurs historiques. La méconnaissance d'abord. Selon le baromètre 2016 du médiateur de l'énergie, un ménage sur deux ne sait pas qu'il a le droit de passer chez un autre opérateur. Deuxième explication, la méfiance. Près d'un Français sur trois pense qu'il risque une coupure en cas de changement. Et la même proportion craint de devoir payer pour résilier son abonnement. Alors 3 millions de clients en moins de 5 ans, c'est un objectif ambitieux pour Total, mais avec un avantage certain, son nom, sa marque, gage de confiance pour les consommateurs.
Emma Sarango, le siège parisien de Vivendi a été perquisitionné par la police aujourd'hui. Une intervention dans le cadre d'une plainte de l'italien Fininvest pour abus de marché dans le dossier Mediaset. Vivendi est devenu le deuxième actionnaire du groupe de médias en 2016 en prenant une participation de 20% dans le capital de la société italienne. Changement d'atmosphère au quatrième jour du procès d'Abdelkader Merah, soupçonné d'avoir été le complice, voire l'inspirateur de son frère Mohamed, qui a tué des écoliers juifs et des militaires en mars 2012, Abdelkader Merah est défendu par maître Éric Dupont-Moretti. Or, l'avocat a déclaré aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris qu'il avait reçu une lettre anonyme proférant des menaces de mort contre ses enfants. Le compte-rendu d'audience de Florence Turm.
Il est 14h, la cour d'assises s'apprête à entendre un nouveau policier sous couvert de l'anonymat. Visage grave, Éric Dupont-Moretti réclame la parole. La veille, l'avocat a dénoncé avec virulence ces enquêteurs qui, dit-il, s'affichent dans les médias mais refusent de venir témoigner physiquement devant la justice. « Je voudrais verser les pièces au débat », commence le défenseur d'Abdelkader Merah, une lettre de menace tout à fait particulière. Alors je connais ce phénomène de contamination qui veut que l'avocat soit regardé comme celui qu'il défend, mais je ne suis pas un islamiste, poursuit-il. Je ne défends pas une cause, je défends un homme et je ne suis pas payé par Daesh ni par un état du Golfe. Je n'ai pas touché un centime pour assurer la défense d'Abdelkader Merah. Des lettres de menaces, j'en ai déjà reçu beaucoup, dans l'affaire Outreau par exemple, explique-t-il. Mais dans ce que j'ai reçu ce matin, on me promet une balle dans la tête à moi et à chacun de mes enfants. Avec cette phrase, Dupont-Moretti, tu vas manger cher. L'avocat s'interrompt dans un silence de plomb. Ils me font rire, ces policiers qui se cachent. Moi, je ne mets pas de cagoule pour venir ici. Alors, monsieur le président, je vais remettre ces saloperies au débat. Vous verrez, c'est daté, vous verrez d'où ça vient. Le président qui s'associe aux condamnations de la partie civile. Une enquête devrait être ouverte par le parquet. Et l'audience reprend dans un climat encore plus tendu que ces trois derniers jours.
Elle a été surnommée Mamie Djihad. Christine Rivière, 51 ans, est poursuivie pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme. Elle a effectué 3 séjours en Syrie en 2013 et 2014 pour rejoindre son fils devenu combattant djihadiste. Elle est notamment accusée de lui avoir apporté un soutien financier. Antoine Maret a suivi l'audience au tribunal correctionnel de Paris.
Christine Rivière n'a que 51 ans, mais cette Mamie Djihad, comme elle est surnommée, elle est très marquée par une vie difficile. Enfance sans attache, scolarité chaotique, travail à l'usine dès 16 ans et au bout, le chômage. Deux enfants issus de deux pères différents, c'est le cadet qui intéresse plus particulièrement la présidente. La relation entre Tyler et sa mère est décrite comme fusionnelle. Tyler va en Tunisie, il se convertit en islam radical, sa mère fait de même. Et quand il rejoint la Syrie pour faire le djihad, elle vient le retrouver à 3 reprises. Adhère-t-elle au combat de son fils ? Son profil Facebook le laisse penser. Christine Rivière y a notamment posté des photos de décapitation et de crucifixion. La présidente lui demande pourquoi. C'est intéressant à voir. Pourquoi ? Pour montrer la réalité de ce qu'il se passe. Pour dénoncer cette réalité ? Non, juste pour montrer la réalité. Et puis il y a ces nombreuses photos retrouvées sur son smartphone dans lesquelles elle pose en niqab avec une kalachnikov à la main. Mais Christine Rivière semble avoir réponse à tout. Là-bas, on a toujours une arme. Et pourquoi en position de tir ? Lui demande la présidente. C'est sûr que c'est mal vu ici, répond-elle avec un ton presque nonchalant. Sur sa vie là-bas, elle répond de façon très évasive à la présidente, et quand celle-ci lui demande des renseignements sur les personnes rencontrées sur place, à chaque fois la même réponse, je ne sais pas. Même son avocat perd patience, et en pleine audience, il la sermonne, répondez, il n'y a pas de piège. Christine Rivière craque, elle fond en larmes, la présidente suspend la séance quelques minutes.
Emmanuel Macron assume sur le fond ses propos tenus hier en Corrèze, indiquent des proches du président de la République. Il avait reproché à certains, je cite, de « foutre le bordel au lieu de chercher du travail » au moment où des salariés de GMES manifestaient. En revanche, le chef de l'État regrette d'avoir utilisé un mot familier qu'il n'aurait pas utilisé dans le cadre d'un discours officiel. Un mois tout juste après le passage de l'ouragan Irma dans les Antilles, on ne peut pas parler de retour à la normale sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. À Saint-Martin, on voit toujours des maisons sans toit et des montagnes de déchets. Et un problème crucial demeure, celui de l'accès à l'eau, car plus de la moitié des foyers n'ont pas encore l'eau courante. La Croix-Rouge a donc mis en place une solution temporaire. 11 réservoirs d'eau ont été installés sur l'île. Thibault Lefebvre s'est rendu dans l'un des quartiers les plus populaires et les moins bien approvisionnés de Saint-Martin, le quartier d'Orléans, au sud-est de la partie française de l'île.
La citerne est un chapiteau en aluminium recouvert par une bâche bleue au bout d'un large tuyau blanc, 12 robinets. Une installation vitale devenue en quelques jours le lieu le plus fréquenté du quartier. Marilyn remplit 4 réservoirs de 5 litres.
Je suis en train de prendre de l'eau parce qu'on n'a pas d'eau. Parce que moi j'ai des enfants qui font pipi, ils salissent leurs vêtements, il faut laver les vêtements. C'est de l'eau pour faire la lessive, pour se laver. Mais on ne peut pas boire.
Eau non potable, le message est écrit en 4 langues, français, anglais, créole et espagnol. Julio est dominicain. Avant l'installation de la citerne, il puisait de l'eau saumâtre directement dans la nappe phréatique.
L'eau de la citerne, tenía mucho tiempo que no se utilizaba. Nunca teníamos este problema. Cuando abrimos la citerne, está todo sucio, está contaminado. Mi hija tenía problemas, le salió como unos hongos en la piel. Si ella al rasgarse, con esta agua puedes cocinar, puedes hacer muchas cosas, menos tomar, pero cambia todo, es importante.
Personne ne sait quand l'eau courante sera totalement rétablie. Les habitants de Saint-Martin consomment 6500 m3 d'eau par jour. L'usine de désalinisation, très endommagée pendant l'ouragan, fournit pour le moment un tiers des besoins.
Thibault Lefebvre, notre envoyé spécial à Saint-Martin. On termine ce journal avec l'ouverture ce week-end du Festival de l'Envelec, un festival de musique baroque qui a lieu dans le Trégor en Bretagne. Il fait peu parler de lui alors qu'il connaît un succès sans faille. Depuis 31 ans, il fait salle comble durant 3 semaines en dehors de la saison touristique. Bonsoir Cécile de Carvaz-Doué.
Bonsoir Aurélie, bonsoir.
À l'heure où la diffusion de la culture sur tous les territoires est la priorité affichée par le ministère de la Culture, ce festival de l'Envelec en Sambre-Bretagne est donc un cas d'école.
Oui, et comme depuis 31 ans, bien, ce sont toujours des bénévoles habitants de l'Envelec et des communes avoisinantes du Trégor, donc dans les Côtes d'Armor, qui font vivre ce rendez-vous. Le point de départ, c'était l'orgue de l'Envelec. En 1986, le maire de la commune et la responsable de la drague de l'époque, voulant le faire rénover, se sont rendus compte que l'instrument, fabriqué en 1653 par Robert Dalam, était unique. Unique parce que c'était le plus vieux de toute l'Europe. Alors pour les musiciens et chercheurs de l'époque, c'était inouï, ça leur permettait d'entendre un son d'origine de ce qu'était la musique sans doute au XVIIe siècle. L'orgue a donc pu être restauré, puis à partir de là, eh bien, est né le festival pour le faire entendre. En 31 ans, c'est donc devenu un festival incontournable pour les musiciens du monde entier, mais un festival qui n'a rien perdu, ni de sa simplicité, ni surtout de son caractère militant d'éducation populaire. Ce n'est pas un hasard si le festival démarre cette année avec des lycéens de Guingamp. Cette ville la plus pauvre du département compte 7000 habitants, dont 5000 jeunes scolarisés. Au lycée Pavie, la conférence philosophique sur le baroque est donc une première pour les élèves et pour leurs professeurs.
Pourquoi est-ce que vous avez le trac ?
C'est par ce passage.
La thématique baroque, ce n'est pas la thématique la plus évidente pour des adolescents de 16 ans.
Et pourtant, il y a des liens avec le présent. Les Turqueries du XVIIe siècle, par exemple. Cette manière dont les musiciens de l'époque ont empoigné la peur des Turcs dans leur musique. À l'écoute, les lycéens de Guingamp sont surpris, mais pas toujours emballés. Pas assez de paroles, pas assez de rythme. Mais progressivement, certains avouent avoir été touchés. Maël, par exemple.
Ici, dans la campagne bretonne, c'est musique bretonne, c'est Nolwenn Leroy et compagnie. Alors que si un festival de musique baroque se tient ici, ça permet de s'ouvrir sur une nouvelle culture. Comprendre la culture des autres, c'est comprendre les autres. En comprenant les autres, on peut arriver à se comprendre soi.
À 30 km de Guingamp, dans le petit village de l'Envelec, cette culture baroque est aujourd'hui bien installée. Et quand on évoque le festival avec les habitants...
Pour vous, c'est important, les gens du village.
Je dis à la campagne, contrairement à ce que l'on pense, il y a beaucoup d'intellectuels qui font venir la culture à eux.
Et la musique baroque, on connaissait peu et on a appris un tas de choses. Ça a été, oui, presque une éducation.
Venir au festival, c'est m'ouvrir l'esprit sur une autre musique. J'ai pas envie qu'on soit tous comme des moutons de panurge à se suivre à la queue leu-leu derrière tel ou tel artiste qui est en tête du top 50.
Et c'est une particularité du festival de l'Envelec. Pas question de faire entendre les tubes du baroque. Chaque année, une compagnie est accueillie en résidence de création. Il Festino, par exemple, avec son fondateur chilien, Manuel de Grange.
Pour moi, la musique ancienne, c'est de la musique contemporaine. Parce qu'on ne sait pas vraiment
comment cette musique elle était jouée. Par exemple, le tempo. On disait vite. Qu'est-ce que c'est d'aller vite pour quelqu'un qui connaît le TGV par rapport à quelqu'un qui, la vitesse la plus grande qu'il connaissait, c'était un cheval. Et il y a des choses qui sont encore dans les bibliothèques qu'on ne connaît pas, qui n'attendent qu'à être joués. C'est pour ça que c'est contemporain, parce que ce sont des choses inouïes qui n'ont jamais été entendues.
D'où l'engouement auprès des jeunes musiciens du coin. De nombreux ensembles de musique classique se sont donc progressivement créés. Actéon, par exemple, du lagnonnais Olivier Rau.
L'Envelec a permis d'entendre de la musique quand même très spécialisée. On n'entendra jamais en dehors de l'Envelec, en fait. J'ai en mémoire ce fameux concert de Jordi Savall avec Espérion 21, où là, on entend du pré-baroque espagnol. C'est excitant, on a envie d'en être.
Et c'est là le défi que relèvent aujourd'hui ces rencontres de musique ancienne en Trégor. En plus du festival, les 300 000 euros du budget permettent de former des musiciens et surtout de proposer des ateliers scolaires d'éducation artistique. Et ça, c'est un vrai tournant, explique Christian Lagenfeld, le nouveau directeur du festival.
Peut-être que la jeunesse a l'impression que tout part de rien. Et c'est justement le côté important de ce genre de festival, de montrer que nous sommes le fruit d'une histoire.
Un dossier signé Cécile de Kervasdoué. Le temps sera généralement ensoleillé demain. Il y aura tout de même quelques perturbations sur le sud-ouest et le nord-est. Les températures seront en baisse. Il fera entre 15 et 26 degrés l'après-midi du nord au sud, 25 à 30 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.